بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، فأولا نشكر الإخوة على حضورهم لهذه الدورة المباركة، وجزاهم الله خيرا وبارك الله فيه. ويسعدنا أن نلتقي في هذه الأمسية المباركة بشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عبد الهادي حفظه الله تعالى ورعاه، وشيخنا الشيخ محمد عبد الهادي إمام وخطيب في مجلس السنة الكبير بمرسيليا. Donc je disais, بارك الله فيكم، on remercie Allah سبحانه وتعالى qui nous a réunis ici et dans cet après-midi et qui a réuni des frères et sœurs salafis, inshallah تعالى. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette réunion soit bénie. Et ce soir, ou cet après-midi, on a le plaisir de rencontrer notre cheikh et notre professeur, le cheikh Mohamed Abdel Hadi, hafidhahullah ta'ala, qui est imam à la mosquée de la Sunna à Marseille, et connu, alhamdulillah. Et le sujet, inshallah ta'ala, ce sera autour de quelques règles et bases concernant al-manhaj al-salafi. Falyatafadhal al-cheikh mashkouran majouran, inshallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، كلمتي معكم تتعلق ببعض القواعد المنهجية التي قام عليها المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة. وفهم هذه القواعد يعينك على استيعاب منهج أهل السنة والجماعة والسير عليه سيرا وسطا لا شطط فيه ولا غلو. هذه القواعد تأصيلية عند أهل السنة والجماعة في فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أبدأ في بيان هذه القواعد، لا بد من تعريف لنا لأهل السنة والجماعة حتى نكون على بينة ونكون على بصيرة من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله. وهي الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية تزيد هذا المعنى وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو معنى أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم، في أقوالهم، في عبادتهم، وهم الجماعة لأنهم مجتمعون على الحق الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي أرشد إليه قول صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهل السنة هم الذين سلكوا طريق الإسلام، سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بما كان عليه رسول الله وأصحابه بخلاف أهل البدع والأهواء، فإنهم ينسبون طارة إلى بدعهم، وطارة إلى أئمتهم، طارة إلى بدعهم كالمرجئة والخوارج، وطارة إلى أئمتهم كالجهمية وغيرها من الطرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. بعد هذا البيان أخوتي في الله، أبدأ بذكر هذه القواعد أو بعض هذه القواعد التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة، سائلين الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القاعدة الأولى: أن مصدر الدين وتلقي الشرع هو كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع سلف هذه الأمة، وهذه قاعدة أصيلة لا ينبغي أن تغيب عن ذهن كل واحد منا، وهي أن مصدر الدين لا يخرج عن هذه الأصول الثلاثة أو هذه المصادر الثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهذا هو المنهج، وهذه القاعدة الأولى التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن مصدر التلقي كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. القاعدة الثانية: وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف: إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وما بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال جل وعلا: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبا ومآلا. القاعدة الثالثة: كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به ولو كان أحدا. كل ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلقته الأمة بالقبول وجب قبوله والعمل به، وهذا أصل مهم يخالف فيه أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل البدع والأهواء. فأهل الزيغ والأهواء منذ عهد الجهمية والمعتزلة وإلى عصرنا هذا وعلى مدار التاريخ جعلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنب ولم يأبه بها، وجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض هو رجل ونحن رجال. الأخبار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها علماء السنة أو علماء المصطلح إلى قسمين: أحاديث متواترة وأحاديث أحاد. أما المتواتر فهو الحديث الذي رواه جماعة عن جماعة في سائر طبقات السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب، بمعنى أن يروي هذا الخبر أي هذا الحديث جم غفير من الرواة يتلقاه عنهم جمع غفير من الرواة، وهكذا في سائر طبقات السند. والسند عباد الله كما نعلم جميعا يعني هو السلسلة، سلسلة الرجال الذين أوصلوا إلينا هذا الحديث. وأما حديث الأحاد فهو الذي ليس بمتواتر، لا يروي هذا العدد الكثير، وإنما قد يرويه شخص أو شخصان أو أقل من ذلك أو أكثر، وهذا الذي يسميه علماء المصطلح حديث الأحاد. فأهل السنة والجماعة القاعدة والضابط عندهم أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، يعني أن تأتي تلك الأسانيد صحيحة، أن تأتي تلك الأسانيد صحيحة، لأن هناك بعض الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول ولكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج بها ولا يلتفت إليها، كالحديث المشهور حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قالوا بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد برأيي. فهذا الحديث عباد الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تلقته الأمة بالقبول، فلهذا لابد أن نتنبأ إلى هذا الأمر. تلقته الأمة بالقبول مع صحة سنده وثبوته، فإذا تلقاه علماء الحديث بالقبول كما هو موجود مثلا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فإن العلماء تلقوا ما فيهما بالقبول، فإذا جاء فيهما أو في غيرهما مما صح سنده فهو مقبول يفيد العلم أولا، وأنه يحتج به في باب العقائد ثانيا كما يحتج به في باب الأحكام ثالثا. ومعنى الأحكام أي في العبادات والحلال والحرام. أما البدع والأهواء من المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة فأخبروا الأحاديث عندهم مقبولة في العمليات، في العمليات أي في الحلال والحرام، أما في باب العقائد فإنهم لا يقبلون خبر الأحاد. وهذا فيصل وفارق بين أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء والبدع، ولذا فقد رد أهل البدع والأهواء كثيرا من مسائل الاعتقاد بسبب هذه القاعدة الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي أن أخبار الأحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد. ولهذا كما ذكرت لكم رد كثيرا من المسائل العقدية، فقد أنكروا نزول المسيح عليه السلام وأنكروا عذاب القبر ونعيمه بحجة أن هذه المسائل لم يجد فيها أحاديث متواترة، وإنما الذي ورد فيها أحاديث أحد. أهل السنة قولهم قولكم هذا قول باطل وهو عين الخطأ على الشريعة، فإن أخبار الأحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبولها والعمل بها واعتقاد ما فيها، والدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة. فمن الكتاب قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا فيه دليل عباد الله على قبول يعني خبر الواحد، فلا تتبين إن كان صادقا وثقة لا تتبين. نعم فهو حجة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي رواية أي قراءة أخرى قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتثبتوا، تدل على أن العدل إذا جاء بخبر فالحجة قائمة به، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ بحالا. وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الأخذ بخبر الأحاد، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق رسلا كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأحاديث في الصحيحين وغيرهما. ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الناس، يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم، وهذا مما دل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه عقيدة. ومعاذ رضي الله تعالى عنه بمفرده أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ماذا؟ ليعلمهم العقيدة على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة أو أهل البدع والأهواء. فإن كلام أو دعوة معاذ رضي الله تعالى عنه لا تقوم بها حجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ كما جاء في الصحيحين وهو حديث متفق عليه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه عقيدة، وهذا الحديث ما فرق بين عقيدة ولا عبادة من صلاة وزكاة وغيرها من الأحكام التي جاء ذكرها في هذا الحديث. نعم عباد الله، فمن هنا يتبين لنا أن هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم، وإقامة الحجة على أهل تلك البلاد، مع أن المبلغ شخص واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبيح دماءهم وأموالهم بناء على أن الحجة قد قامت عليهم بخبر الواحد، فدل هذا على أن خبر الواحد الصادق العادل يلزم قبوله والعمل به. ومن السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرا سمع مقالتي فوعاه ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل ثق لا ثقه له، ورب حامل ثق إلى من هو أفقه منه. فأي فائدة في أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للشخص أن يحمل حديثه ويبلغه لغيره إذا كان هذا التبليغ من الغي لا يفيده؟ ومن السنة التقريرية تقريره صلى الله عليه وآله وسلم بأهل قباء لما جاءهم خبر تغيير القبلة، فماذا صنعوا؟ تحولوا وهم في الصلاة، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وهو حديث متفق عليه. فهذا خبر أحد أهل قباء، بمجرد أن جاءهم الخبر تحولوا وهم في الصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول الذي أتاهم: عليك أن تأتي بغيرك وهذا كلامك لا حجة فيه ونحن لا نقبله حتى يأتي إلينا وفد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام كله مردود على أهل البدع والأهواء. وأما إجماع الصحابة فلم يزل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، وأمرنا بكذا ونهى عن كذا، وقبلوا خبر الأحاد كما في حالة تغيير القبلة وغيرها. وعلى هذا المسلك سلك أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد، وأئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. فهؤلاء الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، سواء كانوا من أئمة الفقه أو من أئمة الحديث، قبلوا أحاديث الأحاد ولم يفرقوا بين الأحاديث المتواترة وبين أحاديث الأحاد. فالتفريق كما ذكرنا آنفا أنه بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. القاعدة الرابعة، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة قائمة على التوحيد. فأول ما يدعون الناس يدعون من التوحيد، ويحذرونهم مما يناقض التوحيد. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى التوحيد، أساسها التوحيد. والدعوة إلى التوحيد عباد الله هي دعوة الأنبياء جميعا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء جميع أساس والتوحيد. الأنبياء جميعا دعوتهم أساس والتوحيد. أول ما بدأوا به بدأوا بالتوحيد. فأول ما يدعون الناس يدعون من التوحيد، وحذروهم من يعني من الشرك. والدعوة إلى التوحيد كما قلنا عباد الله هي دعوة الأنبياء جميعا. قال نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الأنبياء جميعا دعوا أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا. فأساس هذه الدعوة يا عباد الله، ومن قواعد هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ومن أين التوحيد خلقنا، ومن أين التوحيد أرسلت الرسل، ومن أين الدعوة إلى التوحيد أنزلت الكتب. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا لن يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، إنما خلقنا لعبادته جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا عباد الله ذكر أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويقال توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية فباعتبار إضافته إلى الله جل وعلا يقال توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العباد يقال توحيد العبادة. وهذا الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الله به الكتب، ومن أجله خلق الله جل وعلا الخليقة. أما توحيد الربوبية وهو القسم الثاني فقد أقر به الجميع ولم ينكره إلا بعض الطوائف، إلا بعض الأفراد وبعض الأنصار أنكروا توحيد الربوبية، وإن كانوا في قرارة أنفسهم أنهم يقرون بربوبية الله جل وعلا. حتى الذين أشركوا في عبادة أبو جهل، أبو لهب، أبو طالب، أشركوا في عبادتهم لله جل وعلا، ومع ذلك فهم يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بأن الخالق وأن الرازق هو الله جل وعلا. والأنبياء لم يحاربوا أقوامهم من أجل إقرار توحيد الربوبية، وإنما قاتلوا أقوامهم من أجل إقرار توحيد الألوهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عثموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساب الله عز وجل. هذا توحيد الألوهية يا عباد الله، إفراد الله بالعبادة. لا صلاة إلا لله، لا زكاة إلا لله، لا ذبح لا نذر إلا لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا فصل ربك وانحر. هذه دعوة الأنبياء يا عباد الله، الدعوة إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته في دائرة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كل ذلك في دائرة قوله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. عرفنا حقيقة التوحيد يا عباد الله. فما يناقض التوحيد؟ ما هو الذي يناقض التوحيد؟ هو الشرك. إذا عرفنا بأن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إذا فما هو الشرك؟ هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، صرف العبادة لغير الله جل وعلا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله جل وعلا أو أقسم بغير الله جل وعلا معظما له كتعظيم الله جل وعلا فقد أشرك وكفر بالله جل وعلا. وقد بين أيضا أهل العلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. الشرك الأكبر منافي للتوحيد، الشرك الأكبر منافي للإيمان، الشرك الأكبر منافي للإسلام. فمن وقع في الشرك الأكبر فقد انتقض إيمانه فهو كافر بالله ورسوله. نعم عباد الله. أما الشرك الأصغر فهو مناقض لكمال التوحيد، مناقض لكمال التوحيد. ومن هنا علينا عباد الله أيها الأخوة، أيها الأخوة، إذا أردنا أن ندعو الناس فعلينا أن ندعوهم إلى معرفة الله، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن نكون على علم من هذه الأقسام الثلاثة التي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. دلت هذه الآيات على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكما في قول جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقول جل وعلا رب السماوات والأرض هذا هو دليل توحيد الربوبية، فاعبده هذا دليل توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا دليل توحيد الأسماء والصفات. نعم عباد الله. ومن القواعد أيضا التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة التحذير من أهل البدع والأهواء، التحذير من أهل البدع والأهواء وكشف زيفهم ونقض شبههم. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحب أهلها من أقطاع الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. فالبدعة عباد الله أشد من المعصية، بل هي أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ صاحب البدعة يتقرب ببدعته ويعتقد أن هذه قربة تقرب إلى الله جل وعلا. وما وجدنا صاحب معصية يتقرب بمعصية إلى الله جل وعلا، صاحب البدعة قلما يتوب. وصاحب المعصية الزاني يتوب، السارق يتوب، أما صاحب البدعة قلما يتوب، لأنه يعتقد أن هذه البدعة عبادة تقربه إلى الله جل وعلا، فهو يقوم بهذه البدعة ويدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه. ولهذا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحب أهلها. لماذا؟ لأن مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، وهو واجب من أعظم الواجبات وجهاد من أجل أنواع الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب، واجب أن تحذر من أهل البدع، واجب عليك يا عبد الله أن تحذر من أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، بمعنى يصوم صيام يعني تطوع ويصلي صلاة تطوع ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وقد يجب ويتعين على علماء الأمة أن يحذروا من أهل البدع والأهواء، لأنه جهاد يا عباد الله، بل هو من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتعاون بشيء من السنن، أن يحجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدع، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين. كثير من الناس يعتقدون ماذا؟ يظنون بأن الهجر لا يكون حتى مع البدع لا يجري على ثلاثة أيام. ليس هذا المعنى يا عباد الله من هذا الحديث، افهموا هذا الحديث جيدا. المقصود في هذا الحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، هذا ليس مع البدع والأهواء، هذا ليس مع البدع والأهواء، وإنما هذا فيما يعني يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة. مثلا قصرت في حق العشرة أو في حق الصحبة، التعامل فيما بيننا، استلفت منك مالا ما أعطيتني، ما أردت أن تساعدني، ما أردت أن تأخذ بيدي، فهجرتك ثلاثة أيام فيما بيني وبينك. أما أهل البدع والأهواء يهجرون أحياء وأمواتا حتى يتوبوا إلى الله جل وعلا. لهذا يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأما أهل البدع فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، دائمة إلى أن يتوبوا. ما تقول ثلاثة أيام، ما تقول ثلاثة أيام، بل عليك أن تهجر أهل البدع حتى يتوبوا، وخاصة إذا كان رأسا من رؤوس أهل البدع والأهواء. هنا أخوتي في الله يجب أن أنبه إلى أمر لا نتعجل في التبديع والتفسير، خاصة مع بعض الشباب يعني المغرر بهم والملبس عليهم، ما عرفوا من هي السنة والجماعة، على طول يعني رأيت إنسان وقع في بدعة هو مبتدع وهو كذا وهو كذا، تفسقه وتبدعه وتهجره. لا يا عبد الله، ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، قد يقع في البدعة وهو جاهل لا يعلم، قد يقع في البدعة وهو مغرر به، كما هو حاصل مع بعض الجماعات. بعض الشباب وقعوا مع جماعة التبليغ، بعض الشباب وقعوا مع الإخوان المفلسين، والله المستعان، ولبسوا عليهم وغرروا بهم ظنوا بأنهم الحق. فعليك أن تبين له يا عبد الله، تبين بأن هذا العمل بدعة وأن هذا العمل الذي هو عليه بدعة، تبين له بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بيده. أما إذا كابر وعاند فهذا هو المبتدع، المبتدع من وقع في بدعة وأقيمت الحجة عليه لكنه كابر وعاند، ما قبل الحق يا عباد الله. أما الذي يقبل الحق فنأخذ بيده، والدين النصيحة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير في تفسير قوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال رحمه الله: افهموا معي هذه الآية يا عباد الله وتدبروا معانيها، وهي آية عظيمة. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه كما في كتاب فتح القدير: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة، كما يقول بعض الشباب اليوم للمصلحة والمفسدة. أين المصلحة؟ هل أنت الذي تعرف المصلحة والمفسدة؟ الذي يعرف المصلحة والمفسدة هم أهل العلم يا عبد الله. يا عبد الله لا تتلاعب، لا تتلاعب يا عبد الله. كثير من الشباب يقول المصلحة والمفسدة، يجالس على البدع، يماشي مع البدع، يضحك مع البدع، ويقول لك من باب المصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة لا تقدره أنت. فكم من علماء كانوا على السنة بمجالستهم لأهل البدع والأهواء انحرفوا، وهذا موجود يا عباد الله. كم من يعني ممن ينتسب للعلم لما جالس أهل البدع والأهواء وخالطهم انحرف، زي عبد الرحمن عبد الخالق وزي يعني ايه وغير وغير وغير، وعدنا العرعور وروح روح من هذه الجماعات ومن هؤلاء يعني الذين ينتسبون للعلم انحرفوا عن المنهج بمجالستهم من البدع، واصبحوا يدعون ايضا الى البدع والله المستعان. فمن هنا لا بد يعني ان نفهم هذه الايه، وفي هذه الايه موعظه عظيمه لمن يتمسح بمجالسه المبتدعه الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنه رسوله ويردون ذلك الى اهوائهم المضله وبدعهم الفاسده. فانه اذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فاقل الاحوال على الاقل ان يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه. ابتعد، اجتنب اهل البدع، وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر، والله المستعان. أهل البدع عباد الله قال فيهم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: مثل أهل البدع والأهواء كمثل العقارب، يدسون رؤوسهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، فإذا تمكنوا لدغوا. أهل البدع والأهواء إذا التقوا بالسلفيين يعني ما شاء الله هذا هو المنهج الحق هكذا الدين، فإذا ما لقي بعضهم بعضا ماذا قالوا عنا؟ قالوا: انظروا هؤلاء 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 أصحاب لحية، ماذا فعلوا فينا، ماذا كذا. القميص عندهم الدين، القميص واللحية هذا هو الدين، ويغررون بالشباب ويلبسون عليهم كما قال رحمه الله تعالى: فإذا تمكنوا لدغوا. وقد بوب أهل العلم من المحدثين والفقهاء في ذلك تبوبات، منها في سنن أبي داود باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وفي الترغيب والترهيب للإمام المنذري الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب، حتى جعل ذلك من أبواب العقيدة كما في كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي باب النهي عن مجانبة أهل البدع، بل جعله بعض أهل العلم من الخصائص الأساسية لطلب العلم، ناهي التلقي عن المبتدع، ما يتلقى العلم عن أهل البدع والأهواء، كما يقول ابن سيرين: العلم دين فانظوا عمن تأخذون دينكم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال أيضا: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وقال يحيى ابن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق غيره، خذ في طريق غيره. نعم. وقال أبو كلابة الرقاشي: في أهل البدع لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإنه لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. وهذا يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آية. قال رسول الله: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد استدل شيخنا العلامة صالح العثيمين بهذا الحديث بذكر أسماء أهل البدع بأسمائهم، أن تذكر أهل البدع بأسماء، تقول فلان، وكما قال الرسول في ذي الخويصرة: إن من ضئض هذا يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. فأهل السنة يا عباد الله حذروا من البدعة وأهلها أشد التحذير. ولقد تواتر عن السلف رحمهم الله تعالى كلام طويل في هذا الباب، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم على أهل البدع والمخالفين للكتاب والسنة وسلف أهل الأمة بأن المفروض فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكلام السلف في هذا الباب طويل. ومن هذا المنطلق إخوتي في الله، فإنني أقول لإخوتي جميعا: احذروا أهل البدع، واعلموا أنه لا يجوز قراءة كتبهم ولا سماع أشرطتهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم وأن يبين ضلالاتهم. نعم عباد الله، له أن يسمع وله أن يقرأ. علماء السنة الجهابلة كشيخنا العلامة ربيع وغيره من علماء السنة الذين ردوا على البدع والأهواء، ردوا على السيد قطب، وردوا على البنا، وردوا على الجماعة جماعة التبليغ، وردوا على جماعة الإخوان، وردوا على عبد الرحمن عبد الخالق، وردوا على المألبي، وردوا على أهل البدع والأهواء، لأنهم قرأوا كتبهم وسمعوا أصيغتهم. فإذا أردت أن ترد وكنت متمكنا ولا تخشى من الوقوع في الشبهة وعلى علم وعلى بصيرة، لك أن تقرأ كتب أهل البدع. أما أنت أيها الطالب، أيها المبتلئ في الطريقة، يا من كنت في بداية الطريقة، لا يلك أن تقرأ كتب أهل البدع ولا أن تسمع أشرطتهم. البعض من الشباب يقول: نحن نسمع أشرطة محمد حسان لأنها فيها رقائق ترقق القلوب، يعني لا نجد هذا عند علماء السنة، لا نجد هذا عند الألباني، ولا نجد هذا عند يعني من يعني عند يعني إيه صالح عثيمين، شيخ صالح عثيمين، ولا عند الشيخ يعني ابن باز، ولا عند الشيخ صالح الموزان. نحن نريد أن نسمع ما يرقق قلوبنا. الله المستعان، الله المستعان. لقد شرح الشيخ صالح العثيمين رياض الصالحين، وهو كتاب في الترغيب والترهيب، شرح شيخنا العلامة الألباني كتاب الأدب المفرد للبخاري في الترغيب والترهيب. وهكذا يا عباد الله، فعندنا بحمد الله جل وعلا من علماء السنة، هؤلاء يعلمونك الكتاب والسنة. إذا أردت العلم فعليك بكبار أهل العلم يا عبد الله، إذا أردت العلم، إذا أردت السنة، إذا أردت العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله والذي أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان؟ لهذا لما سئل العلامة الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن سماع الشاب صف الحوالي وسلمان العودة قال لا تسمع، قالوا يا شيخ فيها شيء من الحق؟ قال الحق الذي هو عندهم عندنا. هذا يقول قال الألباني ويقول قال ابن باز، فأخذ يا أخي مباشرة من ابن باز، فلماذا أنا أسمع إلى حسان ولماذا أسمع إلى يعقوب ولماذا أسمع لهؤلاء وعندي بحمد الله جل وعلا عندي ما يكفيني وما يغنيني أترك البحر وأذهب إلى النهر والله المستعان؟ فانتبهوا إلى هذا يا إخوتي في الله. نعم، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة كتب أهل الكتاب. فعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي متحيرون يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أقف عند هذا الحد وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، واجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، il a commencé الشيخ حفظه الله تعالى son discours par ce qui suit. C'est une rencontre où c'est un moment joyeux et heureux du fait qu'on se rencontre tous pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam disait, quand des gens se rencontrent dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour invoquer Allah, hafathum al-malaika, les anges les entourent et la miséricorde ainsi que l'acquitude descend sur eux, et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux. Donc le sujet de Cheikh Hafidhahullah ta'ala concerne les règles et les bases sur lesquelles sont bâties la voie de nos pieux prédécesseurs. Et justement, il est important de comprendre ces règles et de comprendre ces bases pour bien comprendre justement le Coran et la Sunna et pour rester droit et ne pas dévier. Il dit Cheikh Hafidhahullah ta'ala, tout d'abord, avant de commencer à citer ces règles, ces différentes règles, tout d'abord, quelle est la définition des gens de, quand on dit Al-Sunna ou Al-Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, ou les gens de la Sunna et du groupe? On les appelle Al-Sunna car ce sont eux qui tiennent à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui tiennent à la Sunna, que ce soit dans leur croyance, dans leur adoration, dans leur pratique, dans leur voie, et ainsi de suite. Et on les appelle le groupe Al-Jama'a car ils se sont réunis sur Al-Haq, ils se sont réunis sur cette vérité, c'est-à-dire la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et les gens de la Sunna et du groupe, ce sont le groupe victorieux et ce sont le groupe sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dit dans un hadith authentique que beaucoup d'entre vous connaissent, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et les musulmans se diviseront en 73 groupes ou sectes. 72 iront en enfer sauf une. Et les compagnons, ils ont demandé quel est ce groupe au messager d'Allah qui sera justement sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dans une version, il a dit ce sont Al-Jama'a, ce sont le groupe. Et dans une autre version, dans une deuxième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus explicite, plus clair, pour nous expliquer justement quel est le groupe. Il a dit, c'est les gens qui seront comme je suis et mes compagnons. Et aussi le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, celui qui vivra après moi, verra beaucoup de divergences ou de discordes, alors tenez à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Les gens de la sunna, c'est ceux qui ont suivi le chemin de l'islam, sur lequel étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et justement, une spécificité de l'Ahl-Sunna, c'est les seuls qu'on les appelle ainsi, Ahl-Sunna, qu'on les associe à la Sunna. Alors que les gens de l'innovation, soit on les associe à leur cheikh, à leur gourou qu'ils ont suivi, ou à leurs innovations. Exemple, Al-Khawarij. On les appelait Al-Khawarij par rapport à leur innovation. Pareil pour Al-Qadariya, pareil pour Al-Jabriya, pareil pour Al-Murji'a. Mais certaines sectes, on les appelle par le nom de leur cheikh, celui qui leur a enseigné cette innovation, comme Al-Jahmiya, les disciples de Al-Jahm ibn Safwan, et ainsi de suite. Et comme il dit Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, la sunna est toujours associée au groupe, alors que l'innovation est toujours associée à la division. Après cette introduction, voici quelques bases et quelques règles qui sont importantes et il est important de les connaître car sur ces bases-là, la voie de Al-Sunna est bâtie. La première règle, la première base, la source de la religion, la source de la législation, c'est le Coran, la Sunna et le consensus. Donc, je répète, la source de la législation islamique sont le Coran, la Sunna, c'est-à-dire d'où on prend notre religion, c'est le Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus, ijma' al-sahaba, ijma' al-salaf, le consensus de nos pieux prédécesseurs. Et c'est une règle tellement importante qu'elle ne doit pas être éloignée de notre esprit, ou elle doit rester dans notre esprit à tout moment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici ça nous prouve qu'on doit prendre du Coran et de la Sunna. Et aussi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu auparavant, que quand il disait le prophète alayhi salatu wasalam, tenez à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Et le hadith de l'iftiraq, quand on dit hadith l'iftiraq, on parle du hadith de la division, que la communauté musulmane, la communauté musulmane va se diviser en 73 groupes, 72 iront en enfer, sauf un. Et on sait maintenant quel est ce groupe, ce sont les gens qui seront, ou qu'ils sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et quand on dit ils sont comme le prophète et ses compagnons dans leurs croyances, dans leurs pratiques, dans leurs voies, dans leurs relations et ainsi de suite. Et il dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, donc c'est une règle sur laquelle est bâtie la voie des gens de la Sunna. Et on ne peut comprendre l'islam, une compréhension correcte, que si on tient justement et on s'accroche au Coran et à la Sunna. Mais on rajoute une chose importante toujours, quand on dit on tient au Coran et à la Sunna, qu'est-ce qu'on rajoute à Khorani? La compréhension de nos plus prédécesseurs, Fahm Salaf, As-Salih. Car la compréhension du Coran et de la Sunna, combien de sectes disent nous on comprend le Coran et la Sunna et on suit le Coran et la Sunna, mais ils comprennent le Coran et la Sunna selon leurs innovations ou selon leurs guides innovateurs. Alors que nous, les gens de la Sunna, Inch'Allah, les gens, les salafis, on suit le Coran et la Sunna et on les comprend tels qu'ils l'ont compris nos pieux prédécesseurs. Donc ça c'était la première règle. La deuxième règle, il est obligatoire de revenir dans nos divergences au Coran et à la Sunna. Ça aussi c'était quelque chose de très important. Quand il y a une divergence entre nous sur un sujet quelconque, les sujets de la religion bien sûr, en priorité, il faut s'en remettre justement dans notre divergence au Coran et à la Sunna. Et ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wa Rasul. Si vous divergez sur une chose, alors ramenez cette chose au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et justement, celui qui ne revient pas dans les divergences de la religion au Coran et à la Sunna ne peut pas être considéré comme croyant, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala le dit justement à la fin du verset, si vous êtes croyant, in kuntum mu'minin. Donc si on est vraiment des croyants, quand il y a une divergence entre nous sur des sujets de la religion, on revient au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. La troisième règle, tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est authentique, tout hadith authentique, nous devons tout d'abord croire au hadith et le mettre en application. Croire donc à ce qui comporte le hadith, mais aussi à le mettre en application. Et même si le hadith est considéré comme hadith ahad, et je vais expliquer inshallah le sens de ahad, car ça c'est un fondement qui différencie justement les gens de la sunna des gens de l'innovation comme le Jahmiya ou le Mu'tazila et tous ceux qui suivent leur pas et leur voie, yani ceux qui mettent la raison en avant pour repousser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ceux qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme, et nous aussi on est des hommes. Pourquoi il dit cette parole? Dans le sens, lui, le prophète alayhi wa sallam, c'est un être humain, il peut avoir un avis, mais nous aussi on est des êtres humains aussi, on est des hommes, on peut avoir notre propre avis. Tout ça pour rejeter et de mettre de côté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'informations qui viennent du prophète, ou deux sortes de hadith. Les gens de science, ils ont dit qu'il y a deux catégories de hadith. Hadith, le hadith al-mutawatir, ou hadith al-ahad. Le hadith al-mutawatir, ou hadith al-ahad. Je vous donne les termes comme ils sont en arabe. Inch'Allah, avec le sens en français, vous allez comprendre, Inch'Allah. Al-mutawatir, c'est le hadith qui est rapporté par plusieurs personnes à chaque niveau de la chaîne de rapporteur. Je vous donne une image, comme ça vous comprenez, Inch'Allah. C'est quoi la chaîne de rapporteur? Le haut de la chaîne, c'est... Je vous pose la question. Le haut de la chaîne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, les sahabes, les compagnons. Après, tabi'in. Après, tabi'in, et ainsi de suite. Tayyib. Al-mutawatir, donc le prophète alayhi wa sallam, donc c'est lui qui va dire cette parole, puis un ensemble de compagnons qui rapportent ce hadith, puis un ensemble de tabi'in qui prennent ce hadith, et ainsi de suite. Vous voyez dans la chaîne de rapporteurs, à chaque niveau, il y a plusieurs personnes. Ça c'est al-hadith al-mutawatir. Hadith al-ahad, c'est le contraire justement, c'est celui qui est rapporté par un nombre inférieur à un mutawatir. Exemple 2 ou une personne. Par exemple, des fois on a des hadiths rapportés par un seul compagnon. Et on verra pas, il n'y aura que ce compagnon qui cite ce hadith. Vous avez compris c'est quoi la différence entre mutawatir et ahad? Tayyib, alhamdulillah. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les gens de l'innovation? Car nous, justement, la base, c'est que tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est authentique et que la Ummah l'a accepté, Attention à ce point. Le Cheikh dit, hafidhahullah ta'ala, il ne faut pas s'arrêter de dire que la umma l'a accepté. Car combien de hadiths où l'umma l'a accepté, mais qu'il n'est pas forcément, quand je dis umma l'a accepté, yani, un bon nombre de musulmans le prennent en considération, mais ce n'est pas pour autant qu'il devient bon. Par exemple, un des hadiths qui est faible, mais qui est très, très célèbre et très connu, le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit, par quoi tu vas juger, yani, comme, yani, sur quoi tu vas te juger? Il a dit, je vais juger selon le livre d'Allah. Il dit, si tu ne trouves pas ce qu'il te faut dans le livre d'Allah, il a dit, je jugerai alors par la sunna du prophète. Il dit, si tu ne trouves pas, il a dit, alors je jugerai par mon propre effort, par mon ijtihad. Et ça, c'est un hadith faible, même s'il est assez répandu. Donc, quand on dit, talaqatul umma bil qaboul, que la communauté l'a pris en considération, mais l'autre condition, c'est qu'il soit authentique selon la définition des gens de science. Que le hadith est authentique, mais la définition connue, inshallah. Tayyib. Donc nous, le hadith authentique, un hadith qui est authentique. Premièrement, c'est un hadith donc qui est sûr. Et on l'applique dans la croyance, et on l'applique dans tout ce qu'on appelle ahkam, c'est-à-dire tout ce qui est licite et illicite. Ça, c'est quelque chose de clair pour tout le monde. Alors que les gens de l'innovation ont une autre règle. Ils disent, hadith al-ahad, maintenant vous avez compris c'est quoi la définition, on le prend que dans l'ahkam, mais on ne le prend pas dans la croyance. Ils disent, quand on a un hadith al-ahad qui concerne un sujet de croyance, de aqidah, alors on le met de côté, on ne le prend pas. Et c'est pour ça que on trouvera certains innovateurs, ils rejettent certaines bases de la croyance, ou certains points de la croyance, comme la croyance aux délices et aux supplices de la tombe. On sait que nous, à l'Sunna, on croit que la personne dans sa tombe sera soit récompensée ou châtiée, ce qu'on appelle adab al-qabr, ou na'im al-qabr. Alors que les gens d'innovation n'y croient pas, justement, à ce point-là. Pourquoi? Parce que ce hadith est rapporté par un compagnon. Ou le hadith que Isa alayhi salam va descendre à la fin des temps, va redescendre. Ils disent non, on ne le prend pas parce qu'il est rapporté par une ou deux personnes. C'est un hadith ahad. Donc, ces gens-là ont tort. Car nous, quand on a un hadith authentique, qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'accepter, même s'il est rapporté par une seule personne. Mais est-ce que les gens de la sunna disent ça comme ça en vain, ou de leur tête, juste comme ça pour le plaisir de contredire tel ou tel? Non. Ils ont des preuves à ce sujet. Voici des preuves. La première preuve, je pense que un bon nombre d'entre vous connaissent, le verset, quand un pervers vous vient avec une information, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? On doit la vérifier. Tayyib. En même temps, les ulama ils disent, on le prend, ce verset, on le prend aussi dans l'autre sens. Si une personne digne de confiance nous amène une information, qu'est-ce qu'on fait? On le prend. Digne, c'est une personne. Donc si une personne nous amène un sujet qui concerne l'aqidah, et c'est une preuve, avec une preuve authentique, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre. Donc ça c'est la première preuve. La deuxième preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est cité dans plusieurs hadiths, il a envoyé des compagnons pour appeler à l'islam. Le hadith de quand il a envoyé Ali dans la bataille de Khaybar aux juifs, aux yahoud, ou quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad au Yémen. Ici, c'est combien de personnes il a envoyé? Une personne à chaque fois. Tayyib. Mu'ad, il a envoyé tout seul au Yémen. Et qu'est-ce qu'il devait enseigner, justement, aux gens du Yémen? Juste ce qui est licite et illicite? Comment faire un salat? Comment faire un zakat, ce salat-là? La première chose par laquelle il devait commencer et leur apprendre, c'est quoi? C'est le tawhid. Et donc, l'aqidah. Est-ce que le prophète ﷺ disait, non, toi, Mu'adh, tu es seul, donc tu ne peux pas leur enseigner l'aqidah? Jamais. Et la preuve, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh dans le hadith authentique connu, il lui a dit, tu vas aller vers des gens du livre. Que ce soit la première chose à laquelle tu les appelles, qui se rappelle du hadith. La première chose, dans une version, « Anni wahid Allah », c'est d'unifier Allah. Et dans une autre version, qu'ils attestent qu'il n'y a point de divinité, si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et il lui a dit, et s'ils acceptent, alors informez-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné dans la journée 5 prières. Donc la première chose à laquelle il a appelé, c'était At-Tawhid. Donc Al-Aqidah. Donc voici notre preuve que même quand une seule personne nous vient avec une information, même si elle est dans l'aqidah, on doit l'accepter. Et ce hadith, justement, le prophète alayhi sallam n'a pas limité l'enseignement de Mu'adh à un point de la religion. C'était plus général. Donc une seule personne peut transmettre la religion, barakallahu fikum, que ce soit l'aqidah, que ce soit l'ahkam et autres. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là j'ai pas exactement la traduction, نظر الله مرئ سمع مقالتي يعني le prophète عليه الصلاة والسلام a fait dua pour une personne qu'il entend la parole du prophète et qu'il a transmis telle qu'elle est. Le prophète il parle combien de personnes? نظر الله مرئ, une personne, il fait dua pour une personne. Donc quelle est l'utilité de ce dua si la personne ne peut pas transmettre l'aqidah, ou s'il transmet qu'il est seul, sa transmission n'est pas prise en compte, on ne doit pas la prendre en compte. Vous comprenez, Ikhwani? Non. Aussi, parmi les preuves, au départ, au début de l'islam, les musulmans, pour prier, se tournaient vers Jérusalem, vers Quds. Et un matin, à Quba, ils étaient à la mosquée de Quba, certains compagnons, ils faisaient salat al-fajr, et un homme est venu vers eux, un homme, il les a informés qu'il y a eu un verset et un ordre d'Allah qu'il fallait se tourner vers Mecca. Donc voici une autre preuve encore, que les compagnons, avec l'information d'une personne, ils ont tourné leur qibla. C'est pas quelque chose de léger, frère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a su, il les a approuvés. Il n'aura pas dit non, il ne fallait pas se tourner, il fallait attendre que d'autres personnes viennent pour confirmer cette information. Donc, ça encore, c'est notre preuve que même si la personne, qu'on prend l'aqidah même d'une seule et unique personne, et même si c'est un hadith ahad, et c'est ainsi qu'il faisait les grands savants de l'islam, que ce soit l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, ou Abu Hanifa, rahimahumullah, ou comme le Bukhari, et Muslim, ou Tirmidhi, ou Nasa'i, ou Ibn Majah, et ainsi de suite. Les grands savants de l'islam. Donc, cette règle, barakallahu fikum, différencie les gens de la sunna des gens de l'innovation. On a fait combien de règles? Quatrième règle, la da'wa, la prêche des gens de la sunna est basée justement sur at-tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de mettre en garde aux gens du contraire justement du tawhid, c'est-à-dire ash-shirk. Le message des prophètes et messagers, sans exception, était basé justement sur le tawhid. Et la première chose à laquelle ils appelaient leur peuple, c'était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, quand il s'adressait à son peuple, il disait, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Et c'était le même message que Salih alayhi salam. et le même que Shu'aib alayhi salam et les autres prophètes. Tous les prophètes sans exception. Ils appelaient leur peuple à unifier Allah dans l'adoration. Et vous connaissez le verset, Inch'Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Donc ça c'était la prêche de tous les messagers et prophètes sans exception. C'est-à-dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Mais c'est plus que ça, Yahwan. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Nous a créés tous. Et il a créé aussi le djinn. Quelle est la raison? C'est d'unifier dans l'adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain. Juste comme ça. Il y a une raison. Et la raison, il nous l'a citée, c'est d'unifier dans l'adoration. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé les messagers. Et at-tawhid, barakallahu fikum, les gens de science disent qu'il est de trois sortes, de trois catégories. Le premier, c'est tawhid ar-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et ils disent, certains parmi les gens de science, c'est le fait d'unifier Allah dans la création, dans la gérance et dans la royauté. Ce qu'on appelle en arabe tawhid al-khalq wal-mulk wal-tadbir. Unifier Allah dans la création, la gérance et la royauté. C'est-à-dire, le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui gère le monde, qui pourvoit nos besoins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul à qui appartient le pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir, le jugement, et ainsi de suite. Tayyib. Mais est-ce que ce tawhid est suffisant pour que la personne soit considérée comme musulman? Je vous pose la question. Est-ce que le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, le seul qui pourvoit nos besoins, est-ce que ça suffit pour qu'on dise cette personne et que c'est un musulman? La réponse est non. Et la preuve, c'est que les mouchriquins, les polythéistes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient cette même croyance. Ils disaient, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'eux, si tu les interroges, qui a créé les terres et les cieux, ils diront Allah. Non. Et c'est pour ça que certains font l'erreur de dire la ilaha illallah veut dire pas de créateur si ce n'est Allah, pas personne qui pourvoit les besoins, nos besoins à part Allah, et ainsi de suite. La deuxième forme d'unicité d'Allah, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est ce tawhid là pour lequel ont été envoyés les prophètes et messagers. On l'appelle en arabe tawhid al-uluhiyya. Et on appelle tawhid al-ibada. Quand est-ce qu'on l'appelle tawhid al-uluhiyya et quand est-ce qu'on l'appelle tawhid al-ibada? Une faïda intéressante à noter, inshallah. D'où l'importance toujours de prendre des notes. Car, ikhwani barakallahu fikum, c'est une nasiha que je donne à moi-même et à mes frères, ainsi qu'aux sœurs. Des fois, on est en train d'écouter un cours intéressant, une faïda passe. C'est vrai qu'on va l'enregistrer sur le moment même, mashallah, faïda intéressante. Mais croyez-moi, d'ici 20 minutes, tout à l'heure, elle sera déjà partie. Par contre, quand vous l'enregistrez, vous l'écrivez, inshallah ta'ala, vous allez pouvoir la retrouver plus tard. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, disait « Al-ilmu saydun, wal-kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil-khibar al-wathiqa » Il disait, Cheikh Rahimallah, Cheikh Ibn Uthaymin, la science est une proie. Et la tâche de cette proie, c'est le fait de l'écrire. C'est l'écriture. Donc il est important, Ikhwani, toujours de prendre des notes. Donc, quand est-ce qu'on dit Tawhid al-Uluhiyya et quand est-ce qu'on dit Tawhid al-Ibada? Tawhid al-Uluhiyya, quand on attribue le Tawhid à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, unifier Allah dans son adoration, en général. Et Tawhid al-Ibada, c'est quand on attribue ce tawhid aux actions des êtres humains. Car on appelle tawhid, je répète tawhid, l'ibada. C'est quoi l'ibada? L'adoration. C'est-à-dire qu'on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes de ses serviteurs. Tayyib. Non, il n'y a pas de souci, je peux répéter. Donc on a tawhid al-uluhiyya, c'est l'unicité d'Allah dans l'uluhiyya. L'uluhiyya, l'unicité d'Allah dans, d'une manière générale. Mais tawhid al-ibada, quand on dit tawhid al-ibada, c'est quand on associe le tawhid aux actes des êtres humains. Quand on attribue le tawhid aux actes des êtres humains. Par exemple, unifier Allah dans la prière, unifier Allah dans az-zakat, unifier Allah dans le pèlerinage, unifier Allah dans l'invocation. Tout ça, c'est des actes de qui? Des serviteurs. Donc, d'où on dit tawhid al-ibad. Et le troisième, c'est tawhid al-asma wa sifat. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et ce tawhid-là tourne autour d'un verset. Allah n'a pas. Il n'y a rien qui lui ressemble, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui l'audient et le clair voyant. Tous les noms et attributs tournent autour de ça. Il y a une négation et une affirmation. La négation, c'est nier toute ressemblance entre Allah et ses créatures, et l'affirmation, affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on croit aux noms et aux attributs d'Allah. Et on décrit, et donc on affirme les noms qu'Allah s'est donné et qu'il lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on décrit Allah tel qu'il s'est décrit et tel qu'il a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sans négation, c'est-à-dire sans nier ni nom ni attribut, ni tahrif, c'est-à-dire ni déformer leur sens, voilà tashbih, c'est-à-dire sans faire de ressemblance entre Allah et ses créatures, ou à la taqif, sans chercher le comment. On croit qu'Allah, il est élevé au-dessus de son trône. On ne dit pas, on ne croit pas au fait qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Ou, on n'essaie pas de déformer le sens. Comme disent certains, istawa veut dire istawla, veut dire dominer. Donc ça, c'est déformer le sens. Ou, at-tashbih, ils vont dire qu'Allah istawa comme la personne s'élève au-dessus de sa monture. Ça, c'est interdit, c'est du tashbih. C'est le fait d'assimiler Allah à ses créatures. Et sans takyif, c'est-à-dire sans chercher le comment. On ne dit pas comment il est Allah. Comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Comment sans les attributs d'Allah, et ainsi de suite. Et je pense que vous connaissez, Inch'Allah, tous. Il y a un téléphone qui est en train de sonner, c'est suivant. Vous connaissez tous la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand une personne lui a dit, oh imam, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, comment? Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'imam Malik, rahimahullah? Al-istiwa est connu. Le comment est inconnu. De croire en ça est une obligation, et de poser cette question est une innovation. Et tu appliques cette même règle pour tous les noms et attributs. Tayyib. Donc, comme on a connu Tawhid, il faut connaître aussi c'est quoi Al-Shirk. Le contraire de Tawhid. C'est quoi la définition de Shirk? Al-Shirk, donc le polythéisme, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures dans une forme d'adoration. Ou le fait de vouer un culte à autre qu'Allah. Ça, c'est Al-Shirk. Et il y a, comme ils disent les gens de science, il y a deux sortes de shirk, il y a deux sortes de polythéisme. Le grand polythéisme et le petit polythéisme. Quelle est la différence entre les deux? La différence est dans la conséquence. Et la conséquence, bien sûr, elle est importante. Le grand shirk, quelles sont les conséquences du grand shirk, Ikhwan? Naam? Il fait sortir de l'islam. Donc, une des conséquences. Mais est-ce que ça s'arrête là? Annule toutes les œuvres. Annule toutes les œuvres. Ça s'arrête là? Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Bien sûr, pour celui qui meurt sans se repentir. Allah ne lui pardonne pas. Ça s'arrête là? Non, il y a encore des conséquences. Il est interdit au paradis. Et ça s'arrête là? Le pire. Éternel en enfer. Éternellement en enfer. Il sortira jamais de l'enfer. Ça, il faut se mettre dans la tête. D'où l'importance de prévenir les gens du shirk et de faire connaître aux gens le tawhid, son contraire. Ça, c'est donc... Et donnez-moi des exemples de grand shirk. Le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, le fait de jurer pour autre qu'Allah, en le considérant comme Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je jure par une personne, comme disent certains, sur la tête de ma mère, ou autre. Si la personne jure, et il considère que la tête de sa mère a une importance comme Allah subhanahu wa ta'ala, donc là ça devient du grand shirk, pas le petit shirk. Donc ça c'est les conséquences du grand shirk. Donc le grand shirk annule toutes les œuvres. Et le petit shirk annule l'œuvre concernée. Et diminue la foi. C'est-à-dire un est contraire à la foi, et l'autre est contraire à la perfection de la foi. Important, cette différence. Le grand shirk est contraire à la foi, complètement. Ça contredit la foi, c'est opposé à la foi. Et le petit shirk, c'est opposé à la perfection de la foi. C'est-à-dire, celui qui commet du petit shirk, sa foi devient imparfaite, elle diminue. Et ces trois catégories de tawhid sont citées dans un verset que tous vous connaissez par cœur. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous qui est présent dans cette salle, Inch'Allah, qui ne connaît pas ces versets. Et vous les répétez dans chaque prière. Et plus que ça, dans chaque raka'a. C'est quelle sourate ? Fatiha. Et c'est dans les trois premiers versets. Le premier verset même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rien que dans ce verset, on a les trois formes de tawhid. Comment ? Alhamdulillah. C'est quoi en français ? Louange à Allah. Ça, c'est quelle catégorie de tawhid ? Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc c'est une ibada. Donc c'est tawhid. L'ibada, tawhid uluhiya. C'est unifier Allah dans son adoration. Parce que le seul qui mérite la louange, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En français, c'est le Seigneur des mondes. Ça, c'est tawhid. Ar-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Il nous reste le troisième. Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Voilà. Une preuve très simple à retenir et dans laquelle vous avez les trois sortes de tawhid. Cinquième règle importante à connaître. Des gens de Al-Sunnah, c'est le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation et des passions. Il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que les salafs, ils étaient durs vis-à-vis des imams de l'innovation. Et donc, ils ont mis en garde contre eux, dans toute la terre, ils ont mis en garde contre leurs troubles. Et ils étaient, même ils ont exagéré dans la mise en garde. Et ils n'ont pas, leur mise en garde était tellement importante, qu'elle était plus importante que leur mise en garde contre les turpitudes, contre l'injustice, contre la transgression, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi, Yahouan, ici, la parole? C'est que Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, explique que les salafs, quand il fallait mettre en garde contre les innovateurs et contre les innovations, c'était plus fort contre leur mise en garde, yani contre les fawahish, contre les pécheurs, contre les pervers, et ainsi de suite. Contre les injustes. Ils étaient plus durs et plus forts. Et mettre en garde contre les innovateurs fait partie des grandes obligations de l'islam. Et plus que ça, ça fait partie du combat dans le sentier d'Allah. Et ça fait partie du meilleur combat. C'est un des meilleurs djihad. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et ceux qui étaient comme lui, ont été justement durs vis-à-vis justement des gens d'innovation. Et il dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, concernant justement les innovateurs, il dit, les guides ou les chefs des innovateurs, ceux qui contredisent le Coran et la Sunna, ou ceux qui font des adorations contraires au Coran et à la Sunna, il est du devoir donc des musulmans de démontrer leur vrai visage et de mettre en garde la communauté contre eux. Et ceci est une obligation par le consensus des musulmans. Et tous les musulmans sont d'accord que quand il y a des innovateurs, il faut mettre en garde contre eux et il faut éclaircir leur cas aux autres musulmans. Et on a posé la question à l'imam Ahmed, rahimahullah. Écoutez cette parole qui est importante. L'imam Ahmed ibn Hanbal, on lui a dit, ô imam, une personne qui prie, qui jeûne et qui fait l'i'tikaf, la retraite pieuse, qu'est-ce qui est préférable pour toi? Lui ou celui qui combat les innovateurs et qui met en garde contre les gens de l'innovation? Et bien sûr, ici, il parle des adorations surrogatoires. Par exemple, le fait de faire des prières surrogatoires, le fait de faire un jeûne surrogatoire ou la retraite pieuse, l'i'tikaf. Qu'est-ce qu'il a répondu l'imam, rahimahullah? Il a dit, celui qui prie, qui jeûne ou qui fait la retraite pieuse, en fait, il le fait pour lui. Ce bien, ça va à lui. Alors que celui qui parle, des gens de l'innovation, ceci est pour l'ensemble des musulmans, et donc c'est meilleur et c'est préférable. L'imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, dans Sharh al-Sunna, disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que sa communauté va se diviser et qu'il va apparaître les passions et les innovations dans sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ou nous a informé que ceux qui auront le succès, c'est ceux qui auront suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Donc, le musulman, quand il voit une personne qui suit les passions, qui suit les innovations, il croit justement à ce qu'il fait, il ne doit pas prendre ce qu'il fait à la légère. Il doit le boycotter, se désavouer de lui, et de le délaisser vivant et mort. Il ne le salue pas quand il le rencontre. Il ne lui répond pas s'il commence par le salam, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation et qu'il revient vers la vérité. Et des gens peuvent se dire, mais que faire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne doit pas boycotter un musulman au-delà de 3 jours? Il dit, cheikh Hafid Allah ta'ala, ceci ne concerne pas les innovateurs. Ceci concerne les musulmans que l'un d'entre eux n'a pas, il n'a pas donné un des droits de son frère ou une sœur n'a pas donné un des droits à sa sœur. Et donc, ils arrivent à se boycotter. Leur boycott ne doit pas dépasser 3 jours. C'est-à-dire, au-delà, ça devient illicite. Mais par contre, les innovateurs, leur boycott, c'est à vie. Jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur innovation. Mais il précise, le cheikh Hafid Allah Ta'ala, en même temps, il est contre le fait de rendre facilement innovateurs les autres. Ça, on le voit chez certains jeunes, chez certains frères, parce que c'est vrai, on dit qu'il faut mettre en garde contre les innovateurs. Il faut boycotter les innovateurs. Il faut s'éloigner d'eux. Mais certains, par contre, ils prennent ça à la légère. Il a écouté ça. Il voit un petit jeune miskin qui commence. Il fait une innovation. Ou il a essuyé un groupe innovateur. Et qui ne sait rien miskin. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un mubtada, c'est un innovateur. Et donc, il va appeler les gens à le boycotter. Et des fois même plus. Et ceux qui ne suivent pas, eux aussi, ils les boycottent. Et eux aussi, ils mettent en garde contre eux. Attention, ikhwan. Ici, on parle des têtes innovateurs. Et on parle de ceux qui savent la vérité, qui ont été déjà conseillés, mais qu'ils persistent dans le faux. Vous savez, ikhwan, barakallahu fikum, comme il expliquait Cheikh Hafid Allah Ta'ala, il y a certains de nos jeunes, qu'Allah leur facilite, c'est qu'ils ne savent pas la vérité. Ils ont été trompés par certaines sectes, par certains groupes. Ils ne savent pas. Peut-être que les premiers qui sont venus vers lui pour l'appeler à l'islam, c'était l'ikhwan, ou c'était tabligh ou autre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis. De suite, toi, tu le vois, tu le juges, tu es un innovateur. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ce frère qui se trompe, ou cette sœur qui se trompe? Qu'est-ce qu'on fait, ikhwani? Tout d'abord, on essaie de le prendre doucement, avec douceur, avec gentillesse, avec délicatesse, avec la bonne parole, pour essayer de le ramener. On lui explique le danger de ces gens-là. On lui amène des preuves. Et s'il persiste, et qu'il s'entête dans son erreur, à ce moment-là, c'est différent. Et le Cheikh Fidhallah Ta'ala a cité que aussi, certains disent, certains qui jouent avec les règles du Coran et de la Sunna, ils disent, nous on s'assoit avec les innovateurs dans le but de les conseiller. Bien sûr, on parle des vrais innovateurs, on ne parle pas des gens qui ne savent pas, des ignorants, on parle des vrais, des têtes d'innovateurs. Ils restent avec eux, mais c'est pas juste rester. Ils plaisantent avec eux, ils rigolent avec eux, ils passent du bon temps avec eux. Et il dit, en fait, je reste avec eux pour les conseiller. Mais d'où tu prends ça? Et où est cette nasiha? Est-ce que nasiha se fait en restant avec eux juste pour plaisanter, pour passer du temps? Et Shawkani, rahimahullah ta'ala, disait, par rapport aux innovateurs, après avoir cité un verset, alors j'ai pas la traduction du verset, si quelqu'un le connaît, la traduction me donne الذين يخوضون في آياتنا. Je vois si quelqu'un connaît la traduction complète du verset. فأعرض عنهم. Allah subhanahu wa ta'ala يعني, demande à son prophète, ou ordonne à son prophète, que ceux qui prennent en sujet. نعم. Bon, je peux dire dans ce sens-là, qu'ils prennent un sujet de discussion, mais pas dans le bon, bien sûr, pas dans le bon sens. Il y a un nouveau verset. قَالَ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ Délaisse-les. Éloigne-toi d'eux. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Jusqu'à ce qu'ils parlent d'un autre sujet. Et si Shaitan te fait oublier, alors ne reste pas avec eux une fois qu'on te l'a rappelé. Ne reste pas avec les gens injustes. Shaitan, rahimahullah ta'ala, dit, ceci est une grande exhortation. Pour ceux qu'ils disent qu'on peut s'asseoir avec les gens de l'innovation. Et ceux qui déforment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui jouent avec le Coran et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui suivent leurs passions. Et qui suivent leurs innovations. Car si cette personne ne réprimande pas les innovateurs, au minimum, ou qu'il ne les change pas. La personne qui reste avec eux, c'est quoi le but? Bien sûr, il a les moyens de le faire. C'est de les réprimander et aussi de les faire changer. Mais s'il n'a pas le moyen de le faire, au minimum, il dit, Shawkani rahimahullah, au minimum, il délaisse leur assise. C'est-à-dire, il ne s'assoit pas avec eux, il ne se mélange pas à eux. Et ça, c'est quelque chose de simple. Et n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et le fait de s'asseoir avec eux, le mal ne s'arrête pas à la personne qui s'assoit avec eux. Le dépasse aux autres. Comment? Je donne un exemple, Erwan. Des gens innovateurs, connus, et des frères connus, des gens de la Sunna restent avec eux. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des autres? Ils disent, si ces frères sont avec eux, et qu'ils plaisantent, qu'ils mangent avec eux, que tout va bien, donc, à mon avis, ces frères, ils sont bien. Et donc, ils vont rester avec eux. Donc, tu serais la cause de l'égarement de tes frères ou de tes sœurs par rapport à ta fréquentation. Donc, attention à Barakallahu fikoum. Et les gens de science ont écrit dans leur livre des chapitres, justement, dans lesquels ils indiquent l'importance de s'éloigner des gens des patients, de s'écarter des gens des patients. Et voici quelques paroles de nos plus prédécesseurs concernant les innovateurs. Al-Fadhil ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, disait, celui qui s'assoit avec un innovateur, méfie-toi de lui. Et celui qui s'assoit avec un innovateur, il n'aura pas la sagesse. Il disait, je souhaite qu'il y ait entre moi et l'innovateur une citadelle ou une forteresse, une grande forteresse. Regardez les paroles du salaf, rahimahumullah. Il disait aussi, j'ai rencontré les meilleurs des gens, qu'ils étaient tous sur la sunna du prophète, qu'ils étaient tous sur la sunna, ils déconseillaient de rester avec les gens de l'innovation. Yahya ibn Kathir disait, quand tu rencontres un homme d'innovation dans un chemin, alors prends un autre chemin. Et Abu Qilab al-Raqashi disait concernant les gens d'innovation, ne t'assois pas avec eux, ne te mélange pas à eux, car je ne peux pas te, ou je crains pour toi qu'ils vont te tromper dans leurs innovations, dans leur égarement, ou de te perturber dans ce que tu sais. C'est ça, Yahwan, le danger. C'est que quand tu t'assois avec les innovateurs, soit ils vont, tu risques de devenir comme eux, donc de tomber dans leurs égarements, ou ils vont te mettre en doute de ce que tu sais. Dans tous les cas, c'est un mal. Et l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, dans Sharh al-Sunnah, il disait que les gens de l'innovation sont comme le scorpion. Ils mettent leur tête sous terre et dès qu'ils ont la possibilité, ils jettent leur venin ou ils piquent. C'est pareil, l'innovateur. Ils se cachent, ils se font dans la masse, tout va bien, et dès qu'il peut, il va pouvoir jeter son venin, jeter leur poison et leurs innovations. Donc, on ne doit pas écouter aussi les innovateurs. Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, dans la parole connue, célèbre, il disait « Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. » Donc, on ne prend pas notre science de n'importe qui. Donc, on ne doit pas les écouter. Écouter donc leurs audios ou leurs conférences. Mais aussi, on ne doit pas leur lire leurs livres. Sauf pour les gens doués de science, doués de raison, qui ont la capacité justement de lire leurs livres pour les réfuter. C'est pas n'importe qui dit « moi je vais prendre un livre des gens de l'innovation et je vais le lire, comme ça je vais moi-même distinguer le bon du faux et je vais le répondre ». Ou certains, comme disent certains frères, « Hadan Allah wa Iyyahum », ils disent « moi je vais lire, je prends le bien et je délaisse le mal, je prends le bien et je laisse le mauvais ». Où j'écoute l'innovateur, je prends que les bons côtés. Mais mon frère ou ma sœur, comment ou quel niveau de science as-tu pour pouvoir discerner toi-même le bon du faux et le vrai, le bon du mal et le vrai du faux. Certains des gens de science enracinés dans la science, comme Cheikh Rabi', Hafidhahullah et d'autres, qui ont la capacité, ils ont lu justement certains livres des innovateurs où ils ont écouté leur audio, et justement pour réfuter leurs innovations, comme il a fait Cheikh Rabi' avec Sayyid Khotob, ou comme ils ont fait les gens de science comme avec un certain Mohamed Hassan et d'autres. Et je reviens justement à certains audios. Certains frères disent, on aime bien écouter Mohamed Hassan, car il a des audios par lesquels il réussit à adoucir les cœurs, ce qu'ils appellent al-raqa'iq. Ils disent, alors que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen, ils ne parlent pas de ces sujets-là. Nous, on veut faire adoucir notre cœur. On leur dit, subhanallah, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a expliqué Riyad al-Salihin, le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et ce livre, justement, c'est un hadith qui adoucit, des hadiths, pour adoucir les cœurs, car il parle des bonnes choses à faire et des choses qu'il faut éviter. Les mérites, les bonnes actions, et le danger des mauvaises actions, et ainsi de suite. Cheikh Al-Albani, il a expliqué le livre Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et qu'il traite le même sujet, et ainsi de suite. Et si tu veux apprendre la science, alors va vers les gens de science, va vers les savants. Prends directement de la source. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, un jour, on lui a dit, Ya Cheikh, qu'est-ce que vous en pensez des audios de Safar al-Hawali et Salman al-Ouda? Écoutez bien la réponse, Ikhwan. Parce que certains disent, oui, mais il y a du bien dans leur cassette. Mais personne ne dit le contraire. Mais le premier n'est pas là. Écoutez la réponse du Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, non, ne prenez pas leur audio. Ils lui ont dit, Cheikh, mais il y a du bien. Il leur a dit, le bien qu'il y a chez eux, vous le trouvez chez les gens de la Sunna, chez les savants de la Sunna. C'est-à-dire que toi, au lieu de passer par lui pour connaître les paroles du Cheikh Ibn Baz, ou celles du Cheikh Ibn Uthaymin, ou celles du Cheikh Al-Fawzan et ainsi de suite, qu'est-ce qui est préférable de faire? Ben, prends directement de la source. Va directement aux audios du Cheikh Ibn Baz, à celles du Cheikh Ibn Uthaymin, à celles du Cheikh Al-Fawzan et ainsi de suite. Car certains délaissent la mer, ils vont au fleuve, ou ils vont à la rivière. Va directement à la source, barakallahu fik. Prends la science des gens de science. Prends la science des grands ulama. Voilà, mais ce que j'ai pu noter de Kalam Sheikh, je suis désolé parce qu'il n'est pas évident de traduire ce qui dit Sheikh mot à mot, mais Inch'Allah, on essaye de vous donner, barakallahu fikum, le sens général. Et juste pour finir, à la fin, Sheikh, un frère lui a posé la question, comment nous, on est des gens ordinaires, comment on va pouvoir distinguer le vrai du faux? Comment on va savoir que lui est innovateur ou tel et les bancs? Comment on peut? Le Cheikh, il a répondu tout simplement, hafidahullah, quand tu tombes malade, vers qui tu vas? Tu vas vers le docteur, vers un médecin. Tu vas pas vers n'importe qui. Si tu as mal aux dents, tu vas pas voir un boucher ou un forgeron pour te soigner des dents. Tu vas directement chez un dentiste. Il dit, Cheikh, hafidahullah ta'ala, si tu atteins d'une certaine maladie, et on te dit qu'il y a un spécialiste de cette maladie à tel endroit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te déplacer toi-même et aller vers ce spécialiste. C'est pareil pour la religion. Et c'est plus important dans la religion. La religion, elle apprend des gens qui sont spécialisés. C'est-à-dire les gens de science. Quand on ne sait pas, alhamdoulilah, on a les moyens de nos jours d'appeler les gens de science et de leur demander. Comme il dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, à notre époque, la science te vient jusqu'à ton lit. Toi, tu es allongé sur ton lit, tu écoutes les gens de science. Nous, de nos jours, on veut tout qui arrive sur place. On veut, si on peut ne pas bouger, s'asseoir à la maison, rester au lit, on a tout. Alhamdulillah. Al-Muhim, pour dire qu'il n'y a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Donc, même les gens ordinaires, comme ils font dans la vie de tous les jours, quand ils ont besoin de renseignements, ou ils veulent se soigner de telle ou telle maladie, et vont vers les gens spécialisés, ben ils font pareil pour, barakallahu fikum, pour la religion. Quand ils ne savent pas, ils reviennent vers les gens de science. Voilà, barakallahu fikum, wa jazakum allahu khayra. Hada wallahu a'lam, sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.